Radio Kapi. Oh,
Kapi. Billy Van Lutumba pour le journal.
Ce journal vespéral sur Radio Kapi s'ouvre par ces inondations signalées dans le territoire de Walikale. Les agglomérations de Hombo Nord et Sud sont envahies par des eaux des deux rivières ayant débordé après des pluies diluviennes. Difficile de trouver du poisson frais dans la ville de Bounia. S'il y en a, il coûte cher. Les raisons diverses sont diverses. Non-respect de la réglementation et entre autres l'usage des filets à mailles prohibées. Dans ce journal, vous aurez plus de précisions. L'invité de ce journal est docteur en géopolitique, il s'appelle Augustin Mangemossi. Il argumente et donne des propositions en rapport avec le déploiement des forces de la SADC dans l'est de la RDC. Tous ensemble, suivons ce journal de Radio Kapi pour découvrir d'autres nouvelles du fin fond de la RDC. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Tout d'abord, cette nouvelle, l'Assemblée provinciale de Kinshasa lève les immunités de Gentil Ngobila. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa autorise la Cour de cassation à poursuivre le gouverneur de la capitale de la RDC. Décision prise ce mardi 9 janvier par les 4 membres sur les 5 qui composent le bureau de l'organe délibérant de Kinshasa, réunis afin de décider de la levée des immunités de Gentil Ngobila à la demande du parquet près la Cour de cassation. Le chef de l'exécutif provincial est parmi les 82 candidats aux législatives sanctionnés par la commission électorale pour fraude électorale. D'autres détails avec vous, Grâce Hamzati.
Cette autorisation de poursuivre Gentil Ngobila intervient après annulation de ses suffrages obtenus aux législatives pour fraude, vandalisme des matériels électoraux et détention illégale des dispositifs électroniques de vote par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ainsi, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a enjoint le gouverneur de déposer sa démission dans les 24 heures et de se mettre à la disposition de la justice. Pour rappel, le procureur général près la Cour de cassation a interdit à tous les 82 candidats invalidés de sortir du pays. Selon le parquet général de cette cour, une action publique est déjà enclenchée contre les faits de corruption, des fraudes, des détentions illégales des matériels électoraux et autres les jours du vote le 20 décembre 2023. La CENI a annulé notamment pour fraude et corruption la totalité des suffrages obtenus par certains candidats aux élections législatives, provinciale et communale dans certaines circonscriptions. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit la démarche de l'Assemblée provinciale qui met Ngobila à la disposition de la justice.
Premier titre de cette édition. Plus de 500 maisons, y compris quelques écoles, sont inondées depuis 3 jours dans les agglomérations de Hombo Nord et Hombo Sud. C'est à cheval entre le territoire de Walikale, au nord Kivu, et celui de Kale, au sud Kivu. Selon les sources sur place, les catastrophes sont causées par le débordement des eaux des deux rivières à la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur la zone la nuit de samedi à dimanche dernier. On ne signale encore aucune perte en vie humaine, mais le président de la jeunesse communautaire Tembo de Walikale plaide pour une intervention du gouvernement et ses partenaires pour atténuer les dégâts. Kibuya Donatien est joint par Bernard Nyangi.
Une forte pluie s'est abattue la nuit du samedi au dimanche 7 janvier et qui a fait l'augmentation du débit de deux rivières, l'Oho et la rivière Hombo, faisant maintenant un dégât de plusieurs matériels et inondation de plus de 500 maisons d'habitation, dépôts emportés. Il y a le pont de Chambucha, le pont de Kachacha. Plusieurs écoles ont été inondées, dont l'épée Chambucha, l'épée Hombo, institut Chambucha, Institut Ushirika et voire même les complexes scolaires de Hombo. Nous demandons au gouvernement national et au gouvernement provincial du Nord Kivu et du Sud Kivu de voir comment venir en aide de cette population qui passe nuit à la belle étoile depuis ce samedi jusqu'à aujourd'hui. Et même les cours n'ont pas repris dans ces établissements.
Inondation aussi à Bulungu dans la province du Kwilu. Ici, plus de 50 familles habitant le quartier Amnissé ont dû quitter leurs habitations et sont actuellement sans abri depuis près de 2 semaines. Leurs maisons ont été détruites à la suite de l'inondation causée par des pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps sur cette cité. Ces sinistrés vivent dans des conditions difficiles selon Nico Ngamandala, un habitant de Bulungu qui alerte. Il sollicite l'intervention du gouvernement tant provincial que national. Cet habitant de Bulungu s'est confié à Irène Bouma.
Je veux vous annoncer le déplacement de la population du quartier Anissé au port Mazinga, dans la cité de Boulongo. Le déplacement est fait suite à l'inondation. L'inondation, c'est suite à ces pluies, à ces fortes pluies qui abattent ces jours ici. Vraiment, il y a eu le débordement là où les gens vivent. L'eau s'est enfoncée. En tout cas, c'est toute la population là-bas qui s'est déplacée. À peu près 40 ou 50 maisons. Ces gens-là, ils sont, il y a de ceux qui se trouvent à Kintuala, au village de Kintuala. Il y a de ceux qui ont dû traverser ici en face. Ils sont sans abri. Ils mènent une vie difficile. C'est inondé, les maisons se sont écroulées, ça fait déjà 2 semaines passées. Non, mais la pluie continue, ici il continue toujours à pleuvoir. En tout cas, c'est après un jour il doit pleuvoir, après un jour il pleut. Je lance le message aux autorités qui m'écoutent pour venir assister la population qui est sans abri, cette population qui mène une vie difficile.
Contraste dans le Sud Kivu, on signale un manque d'eau dans la ville. Sud Kivu, il s'observe une sérieuse pénurie d'eau potable dans plusieurs quartiers de la ville de Bukavu depuis la fin de la semaine dernière. En effet, la conduite principale d'eau située vers le lycée Wima et qui alimente la ville de Bukavu serait en danger. Les habitants ont reconstruit sur les conduites de la régie des eaux. Le chef technique de la régie de distribution d'eau interpelle la population. Ingénieur Franck Saloum explique la situation au micro de Rachel Kiesse.
Vous savez que c'est une situation qui devient de plus en plus récurrente où notre conduite est en train de céder entre les lycées Wima et l'ISTEM. Donc nous appelons la population vraiment à revenir en civisme et de protéger cette conduite-là parce que c'est la conduite principale qui alimente toute la ville de Bukavu. Si nous arrivons aujourd'hui à ne pas réparer cette conduite, c'est parce que chaque fois qu'il y a ces mouvements de terre et puis ces eaux de ruissellement qui s'enfoncent à cet endroit et qui fragilisent la base de cette conduite. Nous appelons toute la population de Bukavu à revenir à des bons sentiments parce que l'eau, c'est la vie. S'attaquer ou fragiliser les ouvrages de la régie des eaux, c'est vraiment suicidaire pour la population elle-même. Nous lançons un SOS à toutes les autorités compétentes pour que ces sites soient vraiment protégés.
Pour le directeur régional de la régie des eaux, la meilleure solution pour qu'il n'y ait plus d'épanne dans la ville serait de démolir les maisons construites sur ce site et ensuite planter des arbres. En Ituri, les poissons frais sont rares ces derniers jours sur les marchés à Bounia et sa périphérie, avec comme conséquence la hausse exagérée des prix de cette denrée. Certains pêcheurs attribuent cette carence au non-respect de la réglementation de pêche dans le lac Albert par les services spécialisés. De son côté, le Bureau des ressources en eau à la Division provinciale de l'environnement accuse les pêcheurs d'utiliser les filets prohibés qui ne favorisent pas la reproduction des poissons. Reportage Martial Kizabiamongo.
Du marché central de Bounia à celui de Yambiaya, des étalages dans des hangars de vente de poissons frais sont presque vides. Et pourtant, il y a 2 semaines, des poissons y étaient en abondance. Plus de 200 femmes vendeuses de poissons déplorent cette situation qui les pousse à l'oisiveté et affecte directement leur vie quotidienne. Irène Napengwe, la coordonnatrice. Si les autorités pensent que les filets d'IA n'est pas conforme, qu'elles nous cherchent autre, les poissons arrivent. Et nous distribuons à toutes les femmes. Certaines arrivent ici au marché, sans même un capital, pour chercher ne fût-ce que 10 kilos à vendre. Alors, comment nous allons vivre? Justin Vawika, du service des ressources en eau à la division provinciale de l'environnement, jette à son tour la responsabilité à l'unité de surveillance qui, selon lui, n'arrive pas à décourager cette pratique.
Et il y a eu beaucoup de rapports qui ont dénoncé l'inefficacité de cette structure provinciale d'unité de surveillance, ce qui fait qu'il y a multiplicité des filets prohibés.
Nous n'avons pas encore la réaction des responsables de l'unité de surveillance de pêche. Pour rappel, la production journalière du poisson était d'environ 200 kg contre 20 actuellement. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Province du Tanganyika, 3e jour ce mardi de l'arrêt de travail à la société chinoise Greatlex Cement, GLC, qui produit du ciment à Kabimba dans le territoire de Kalemie. Les agents revendiquent l'augmentation de leur salaire. Des précisions avec Paulin Munanga.
Les agents des GLC dénoncent ce qu'ils qualifient de discrimination salariale. D'après eux, un travailleur congolais au sein de cette société a un salaire dérisoire par rapport à un expatrié chinois ou africain. L'un des agents s'exprime.
À l'Interlac, on produisait 150 tonnes par jour. Mais avec un salaire d'un travailleur, les moins payés avec $200. Avec tous les avantages sociaux si possible. Donc les soins médicaux, les logements, eau et électricité, les études des enfants. Mais à la GLC, on produit actuellement, depuis la relance de l'usine, 4500 tonnes par jour. Et un Congolais qui vous touche $160 par mois. Pourtant, un Chinois, le moins payé à $4000 par mois, et un expatrié tanzanien, burundais, rwandais, il vous touche plus de $800. Chose incroyable.
Nous venons d'apprendre de la part de certains agents que la société GLC aurait promis l'augmentation de leur salaire à partir du mois de février prochain. Radio Okapi n'a pas obtenu de réponse de la part des responsables de GLC. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Et à Kananga, une dizaine de professeurs des universités ont reçu ce mardi des véhicules. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Moindo Zangi a indiqué que ces matériels roulants est un don du chef de l'État. Le même exercice a été fait en Mbujimayi au Kasaï oriental. François Kadima nous fait le point.
À Kananga ce jour, c'est 15 professeurs ordinaires et émérites qui ont reçu leur véhicule de marque Hilux 4x4. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui l'a également fait en Mbujimayi parle de la réalisation d'une promesse du chef de l'État qui tient à l'amélioration des conditions des enseignants d'université en RDC. Mouindo Zangi.
Le président, depuis qu'il est arrivé, il a mis un accent sur la formation du capital humain. C'est pour cette raison qu'il avait demandé que nous puissions mettre à leur disposition des moyens pour leur mobilité. Donc on est venu distribuer des véhicules pour les professeurs ordinaires.
Parmi les bénéficiaires, le professeur ordinaire Léonard Kalanda. Il salue ce geste qui honore l'enseignement au niveau supérieur.
Ce véhicule que nous recevons ce jour sont des symboles, des signes de votre courage et persévérance, sans lesquels vos professeurs ordinaires ne les auraient pas reçus. Cet acte nous soulage et sonne le glas de la fin de nos attentes perlées et souvent stériles d'autrefois.
D'après le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, ce véhicule est un premier lot et l'exercice va se poursuivre pour les autres professeurs qui enseignent au supérieur en RDC. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Dans le territoire de Beni, des leaders communautaires et autorités locales de Maïmoya, un village situé à plus ou moins 40 kilomètres de la ville de Beni, ont échangé lundi avec une délégation de la MONUSCO. La situation sécuritaire et la protection des civils étaient au centre des échanges. C'est en prévision de la fermeture prochaine de la base militaire de la mission onusienne dans la zone. Des échanges jugés bénéfiques pour les uns et les autres. André Kitenge.
Au moins 60 leaders communautaires, des jeunes et autorités civiles et militaires ont pris part à ces échanges d'une journée. Selon Jean-Pierre Kassere Kamanunga, le secrétaire administratif du groupement de Bambouba Kisiki, la situation sécuritaire dans la zone reste préoccupante.
Le groupement de Bambouba Kisiki en général est trop envahi par les adefnals qui sont en train de tuer. Il y a des morts, surtout dans le village de Maïmoya. Nous avons déjà plaidé au niveau de la MONUSCO de doubler la sécurité. Nous avons demandé à ce que les FR et la MONUSCO puisse faire la mutualisation et de nettoyer la région.
Pour sa part, le président de la société civile de Maïmoya, Yango Bouema, pense que ces échanges leur ont aussi permis de comprendre la mission de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO.
Les échanges nous ont été bénéfiques. On a essayé de comprendre maintenant la mission de FAIB avec leur mandat. Ils sont prêts à quitter maintenant la RDC d'ici là, mais avec l'état sécuritaire que nous voyons, il faudrait qu'ils passent à une vitesse vraiment supérieure.
Ces échanges qu'organise la MONUSCO rentrent dans le cadre de la fermeture prochaine de sa base militaire à Maïmoya et de son retrait progressif et responsable de la République démocratique du Congo. De retour de Maïmoya, André Kitenge, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La Cour internationale de justice établie à La Haye marque un tournant crucial ce jeudi en organisant sa première audience dans l'affaire des génocides intentés par l'Afrique du Sud contre Israël. Cette affaire qui a suscité une attention mondiale a déjà obtenu le soutien de plusieurs pays tandis qu'Israël et les États-Unis s'y opposent fermement. En décembre dernier, l'Afrique du Sud a formulé des accusations de génocide à l'encontre d'Israël en lien avec ses actions à Gaza, appelant à mettre fin à l'assaut militaire présumé avoir causé la perte tragique des plus de 23 000 vies palestiniennes. La plainte souligne la violation alléguée par Israël de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, un traité crucial forgé dans les séquelles de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. Les militants de la cause migratoire tirent la sonnette d'alarme au sujet des expulsions massives et des arrestations arbitraires en Tunisie, où les autorités voient arriver de plus en plus des migrants qui tentent la traversée de la Méditerranée entre ce pays d'Afrique du Nord et l'Europe. Lundi, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux a accusé le gouvernement de mener une campagne de répression contre les migrants au détriment des préoccupations humanitaires pour satisfaire le chantage européen et assurer un flux constant de soutien financier et logistique.
L'invité.
Docteur en géopolitique, Augustin Mangemossi salue le déploiement des troupes de la SADC dans l'est de la RDC pour accompagner le gouvernement dans le processus de pacification. Invité de Radio Okapi, il encourage l'État congolais à définir un mandat clair avec ses troupes régionales pour que leur retrait ne pose pas de problème dans l'avenir. Docteur Augustin Mangemossi s'entretient avec Blaise Nongala.
Bonjour professeur Augustin Mangemossi.
Bonjour monsieur. Bonjour.
Les troupes de la SADC sont déployées dans l'est de la RDC depuis le 23 décembre dernier en remplacement des contingents de l'EAC. Quelle analyse faites-vous de l'arrivée de ces soldats?
Oui, au fait, la partie congolaise a trouvé que le bilan de troupes de l'EAC était un bilan mitigé et le gouvernement congolais a préféré faire appel aux troupes de la SADC, qui d'ailleurs par nostalgie semble laisser de bons souvenirs aux Congolais. Donc ce qui est tout à fait normal pour un gouvernement de pouvoir solliciter un appui extérieur quand il est dans les besoins. Dès le départ, les mandats n'étaient pas vraiment bien éclaircis. Et puis il y avait aussi les intérêts. Vous voyez, la plupart de pays qui organisent l'EAC, ce sont des pays ont des intérêts un peu obscurs par rapport à la réalité qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire les crises ou les conflits, les guerres à répétition sont aussi l'œuvre d'un certain nombre de coparents sur le plan sous-régional, dont l'organisation l'EAC a à son sein des membres.
Qu'est-ce que les troupes de la SADC pourront apporter de plus pendant leur déploiement?
En 1998, bien entendu aussi en 2013, les troupes de la SADC ont eu quand même à démontrer leur sensibilité par rapport à la question de l'insécurité à l'est de la RDC. C'est-à-dire sur le plan nostalgique, la population congolaise pense que ça peut en peut aller avec les troupes de la SADC que les troupes de l'EAC. Or, malheureusement, comme nous devons l'avouer, les États n'ont que des intérêts. Ils n'ont pas d'amis. Il nous appartient à nous, la partie congolaise, le gouvernement congolais, de pouvoir faire monter les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo en puissance pour préserver et sauvegarder l'intérêt national congolais, c'est-à-dire la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ce ne sont que les militaires congolais qui pourront le faire mieux que les autres.
Mais certains pensent que ces militaires ont la volonté, mais ils ne sont pas bien équipés.
Oui, raison pour laquelle le gouvernement doit tout faire pour mettre les moyens à leur disposition. Ce sont les moyens. Si la volonté y est, mais il faut faire suivre la volonté par les moyens. Pas seulement les forces de défense, aussi les forces de sécurité. Tous, ils ont besoin de moyens. Nos services de renseignement doivent travailler pour collecter les informations et aider l'État à pouvoir parer à toute éventualité. Donc, il y a un certain nombre de rapports qui concourent à la sécurité nationale. Ok, l'État doit y veiller scrupuleusement pour permettre aux Congolais de pouvoir vaquer librement dans cette partie de la République en paix.
Vous êtes un docteur en géopolitique. Vous ne craignez pas que le changement de ces deux forces puisse engendrer les conflits entre ces deux organisations sous-régionales, l'EAC et SADC?
C'est là que j'appelle de mes voeux que la diplomatie congolaise puisse traiter ces dossiers. Parce que, comme vous le dites, la RDC est membre de l'EAC au même titre que de la SADC. Éventuellement, il y aura des frustrations autour de la question. Il appartient à la diplomatie congolaise de pouvoir arrondir les angles.
Professeur, plus de deux semaines après le déploiement des soldats de la SADC, quel message lancerez-vous à la population congolaise?
À court terme, l'État congolais a besoin des alliés. L'État congolais a besoin d'un appui extérieur. Il appartient aussi à l'État congolais de pouvoir comprendre que, à moyen terme, les populations de la RDC ne pourront plus supporter les forces étrangères sur le territoire congolais. Donc, la partie congolaise doit commencer à travailler dès à présent à rattraper le temps perdu. Il faut qu'il y ait aussi un mandat clair de la SADC.
Professeur Augustin Mangemossi, nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
C'était la grande édition du journal en français de cette soirée, présentée par Billy Yvan Lutumba.